je me fais tout petit pour pas que les videurs me triquent.
Merci infiniment de votre écoute, c'était Encycli, c'était Marianne, et tout à l'heure on démarre un nouveau cycle au travers du premier épisode, donc d'un nouveau cycle, sur les Beastie Boys.
Mais ce soir c'est sûr qu'on aura de bons morceaux. Dans les poches plein de bifton, donc on va m'amuser.
Ça se passera toujours sur Cause Commune et donc toujours sur 93.1. A plus tard.
Pas synchronisé qu'on a répété à 10. Moi et mes complices sur la même longueur d'onde. J'ai déjà choisi ma go. Pour mon pote j'ai repéré. Y'a du monde dans la salle. Les trois quarts en la coste. Le DJ a ses platines, sa mixette et son vieux poste. Son vieux poste, c'est nos bons délires, on les a pas oubliés. Les bonnes soirées, y'en a pas des, y'en a pas des milliers.
Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Libre à vous. Nous vous convions aujourd'hui au Café Libre pour discuter des actualités autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Avec également au programme Cassandre ou l'aporie des GAFAM et l'informatique totalitaire dans une nouvelle pituite de Luc. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 27 janvier 2026, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric Couchet. Salut Fred.
Salut à vous, belle émission.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par le truc que presque personne n'a vraiment compris mais qui nous concerne toutes et tous, la chronique de Benjamin Bellani. Salut Benjamin.
Salut Étienne.
Alors aujourd'hui tu voulais nous raconter une histoire méconnue des hellénistes, Cassandre ou l'aporie des GAFAM.
Oui, tout à fait. C'est une histoire qui n'est pas enseignée dans les classes de grec ancien que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il s'agit d'un épisode de Cassandre. Vous savez, Cassandre, c'est la fille de Priam, le roi de Troie, et elle reçoit d'Apollon le don de prédire l'avenir. Mais comme elle refuse ses avances, hashtag balance ton Apollon, il lui lance un deuxième sort. Personne ne la croira jamais. Eh ben moi, ça m'a vachement fait penser à nous tous, les libristes autour de la table. Nous toutes et tous ici, depuis des années, on passe notre temps à prévenir le monde des dangers des GAFAM, des contradictions à les utiliser partout, et ça fait des lustres que personne ne nous croit. La ressemblance est tellement flagrante que je me suis demandé si Cassandre n'avait pas, elle aussi, en son temps, prévenu des dangers des GAFAM. Eh ben vous allez pas me croire, mais si, Cassandre, elle l'avait prédit. Elle sait dire si elle était performante en voyance. Évidemment, l'histoire est passée inaperçue pendant des millénaires, mais en fouillant, je l'ai retrouvée et je m'en vais vous la conter aujourd'hui. Alors, je vais avoir besoin de votre aide, car bien évidemment, qui dit tragédie grecque dit cœur antique. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous demander votre participation active pour faire le cœur des internautes. Vous voulez bien ?
Oui !
Alors super, c'est parti. Nous sommes à Athènes. L'action se situe au 1er siècle après Google. Cassandre s'adresse au cœur des internautes. C'est de la tragédie grecque, alors c'est plus dur que d'habitude. Hein. Une rumeur rapide a répandu dans tout l'internet l'heureuse nouvelle d'un cheval de bois qui apporte services gratuits et performants à toutes et à tous. Or, je vous le dis, méfiez-vous de ce cheval et ne le laissez aucunement entrer dans la cité, car il vous exposera au danger des titans tout-puissants et malfaisants. Les GAFAM.
Quel danger, il n'y a rien à craindre. Les GAFAM
ça va pas du tout, excusez-moi, mais vous faites un très très mauvais cœur antique. Peut-être que j'ai été trop ambitieux, je sais pas, mais là ça va vraiment pas être possible. C'est pas parce qu'on fait du logiciel libre que forcément ça doit être moche. Alors il va falloir trouver quelque chose, sinon moi je vais aller enregistrer ma chronique chez Apple. Alors je sais, pour faire un cœur antique plus solennel, est-ce que vous pourriez me le faire à la Carmina Burana?
Oui, on peut essayer.
Bon allez, alors pop. On y retourne. Alors, une rumeur rapide a répondu dans l'internet, à toutes et à tous. Or, je vous le dis, méfiez-vous de ce cheval et ne le laissez aucunement entrer dans la cité, car il vous exposera au danger des titans tout-puissants et malfaisants, les GAFAM.
Mais quel danger ! Y'a rien à craindre ! Les GAFAM sont nos alliés !
Quel malheur ! Yel ne me croit pas. Oui, Cassandre était inclusive et c'est encore un point qu'on n'enseigne pas en cours de grec, heureusement que je suis là. Quel malheur, Yel ne me croit pas. La cité court désormais un grand danger, je dois les protéger. Oh, fiers internautes, veuillez accepter cette épée en cadeau de la princesse Europe, fille d'Agénor, car il vous protégera de la foudre et des vols de données à caractère personnel que les titans veulent vous ravir. Acceptez-le, le robuste glaive protégeant la démocratie, le RGPD.
Nous, on s'en fout, on clique OK, on dilapide de nos données.
Alors tout est perdu. Je vois Néphélé, la nymphe des nuages, qui leur tend un piège mortel, un piège auquel la cité ne pourra plus échapper, car il permet à nos ennemis de lire dans les âmes comme dans un livre ouvert, le Cloud Act. Oh, naïfs internautes, ne voyez-vous pas que vous avez confié les clés de tous vos secrets à des traîtres? Il est encore temps de les reprendre, ressaisissez-vous!
Là, tu nous saoules, on a la flemme, c'est nous les veaux captifs.
Oh non, tels les compagnons d'Ulysse, ils sont aveuglés par le chant des sirènes. Ah, s'ils savaient qu'ils sont désormais à la merci totale de Zeus, que d'un simple regard, ils peuvent suivre toute leur navigation par-delà les océans du web, que leurs données de santé ne sont plus sécurisées, que Zeus peut les faire disparaître sur le champ et les priver de tous leurs jouets numériques, messagerie, librairie. Et même leur compte Instagram.
Ah non, ah non, là, ça va trop loin.
Ça va trop loin.
Déconnez pas, tu nous laisses Instagram.
on rigole, mais l'heure est grave. Hein. Dans toute l'histoire des Cassandres, depuis que le mythe de Cassandre existe, je crois qu'on assiste là à une première. Le moment où on va peut-être la croire. Alors, je sais pas vous, mais moi ça me donne le vertige. Le contexte géopolitique mondial donne raison aux Cassandres du numérique. Appelez ça comme vous voulez, souveraineté numérique, autonomie stratégique. Aujourd'hui, bah ça fait plus rire grand monde. On serait tenté de pérorer et de dire « Ah, je vous l'avais bien dit !» Mais finalement, on n'aurait jamais autant préféré avoir eu tort. L'Europe est une colonie numérique. En fait, ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'à la faveur d'un Trump décomplexé, tout le monde le voit. Et nous sommes toutes et tous concernés. Et aujourd'hui, c'est à nous toutes et tous qu'il revient d'agir et de se libérer de ces chaînes invisibles que nous n'avons que trop longtemps tolérées.
Bien, merci Benjamin. On te retrouve tous les mercredis dans RDGP, en podcast et sur le site divers.
Merci, et merci au cœur antique. Vous avez été super.
Ouais.
Et la prochaine pour nos nouveaux cœurs antiques, j'imagine, ça va être une arlésienne de 2026.
On va monter le niveau progressivement, non. Vous allez voir 2026, plein de surprises.
Ça va chauffer.
Parfait. Eh ben, on se retrouve tous les trois après au Café Libre, mais avant ça, nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous vous donnons donc rendez-vous au Café Libre. Et avant cela, nous allons écouter La Marguerite par Aux Abris. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
Effeuillez la marguerite pour tomber sur pas du tout. C'est ainsi que tu le quittais, du coup il vaut plus un coup. Et c'est chez lui que tu habites, faut réfléchir avant tout. Même s'il n'y avait pas de suite, ça fait beaucoup d'un seul coup. Tout ça pour une marguerite, tu regrettes après coup. La solution c'est pas la fuite, on s'apprivoise. C'est tout afin d'éviter les pires dans le vin de l'eau. Un coin c'est tout, on palabre, on négocie pour ne pas devenir fou. Cette fleur, une si jolie marguerite, par qui tu arraches les cœurs pour partir, pour prendre la fuite. C'est pas sympa pour cette fleur, c'est même pas une tulipe. Pour les sortir, c'est le bonheur, une fleur pour prendre la fuite. Marguerite, je suis tombé sur à la folie. Mais comme il n'y avait personne autour, je me suis dit c'est des conneries. Et puis mon chien aboyait lui, et moi c'est pour la vie. Si jamais on fait des petits, je vous en garde, c'est promis. Rouh, 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 rouh. Du coup c'est ainsi que tu le quittais, du coup il vaut plus rien. Mais c'est chez lui que tu habites, faut réfléchir avant tout. Même s'il n'y avait pas de suite, ça fait beaucoup. D'un seul coup, la la la, la la la.
Nous venons d'écouter La Marguerite par Aux Abris, disponible sous licence Art Libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous,
libre à vous.
L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune,
puis en podcast.
Nous allons présent passer à notre sujet principal. Bienvenue au Café Libre, votre rendez-vous mensuel pour débattre des actualités autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Avec moi autour de la table, et vous avez entendu leur belle voix, une équipe de choc, Bookinette, présidente de l'April, libraire et membre de l'équipe Libre à vous. Salut Bookie.
Salut Étienne.
Pierre Bessac, fondateur d'Eriomen.net. Salut Pierre.
Bonjour tout le monde.
Et Benjamin Bellamy, qui nous fait le plaisir de rester avec nous. En plus d'être chroniqueur pour Libre à vous, il est fondateur et dirigeant de la société Adores, papa de Castopod et animateur de Rien de Grave Patron. Re-salut Benjamin.
Bonjour à toutes et à tous.
N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavoue.org/267 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez un podcast. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié la sonnette. On va devoir faire sans ou je vais essayer de la mimer. On verra donc dring. Pour commencer en douceur, je vous propose que nous souhaitions quelques joyeux anniversaires. Et pour commencer, un qui n'en est pas des moindres, les 25 ans de Wikipédia. Alors on a déjà souvent parlé de Wikipédia dans Libre à vous et au Café Libre, mais j'ai trouvé qu'à minima, ça méritait un petit coucou. Est-ce que l'un ou l'une de vous souhaite réagir sur cet anniversaire important? Vas-y Benjamin.
Tu veux chanter?
Alors, je voulais vous demander de chanter Joyeux anniversaire en chœur antique.
Mon Dieu, on est chaud maintenant, on est foutu.
Non, pas du tout. Alors, ouais, c'est les 25 ans de Wikipédia et c'est aussi cette année que Wikimania, l'événement annuel de Wikipédia, aura lieu à Paris pour la toute première fois au mois d'août. Donc, c'est un double événement pour nous Wikipédiens français et francophones. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on voit souvent des campagnes de dons pour Wikipédia. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'association Wikimedia France et que sur wikimedia.fr, et ben vous pouvez adhérer à l'association Wikimedia France et faire des dons.
Tu fais bien de le rappeler, et d'autant plus dans une période où on entend souvent parler des attaques que se prend quand même pleine face, c'est pas très joli comme expression, mais qu'importe, Wikipédia, par les Musk, pour tous les fascistes en puissance, qui voient dans la libre circulation et dans l'appropriation collective du savoir un danger pour leur projet politique. Donc, importance de souvenir ce genre, de soutenir ce genre de projet. Oui, Benjamin.
Ouais, et puis même sans être autant manichéen, il y a les attaques du poing qui sont régulières. Et pour préciser, hein, parce que c'est un point qui n'est pas forcément connu, quand vous faites un don à Wikipédia, ça va à la Wikimedia Foundation, donc qui est l'association mondiale, et il y a aussi l'association française. donc la Wikimedia France. Et donc si vous allez sur wikimedia.fr, vous pourrez adhérer à l'association Wikimedia France. Voilà. Et pour l'année de Wikimedia en, de Wikimania en France, je pense que c'est aussi important.
Je partagerai, je l'ai pas encore mis, mais je rajouterai la référence vers, vers cet événement important en juin que tu mentionnais, Wikimania.
Un mot aussi, Wikipédia, Wiki, et la fondation Wikimedia ont une importance au-delà de l'encyclopédie elle-même, parce qu'ils sont là aussi pour faire entendre la voix des plateformes libres et collaboratives comme Wikipédia, mais comme bien d'autres, lorsqu'il y a de la législation potentiellement problématique qui sort du type au hasard la preuve d'âge pour les mineurs sur les réseaux sociaux, puisque suivant comment c'est tourné, on peut considérer que Wikipédia est une sorte de réseau social, puisque que les contributeurs s'échangent des messages. Voilà. Donc il y a un rôle qui va largement au-delà du fondement de l'encyclopédie.
Oui. Et c'est vrai que je crois que ça remonte à une directive droit d'auteur où c'était peut-être avant Wikipédia ou Wikimedia. Maintenant, ils mettent de l'énergie dans le plaidoyer politique, dans la défense. Et je sais que voilà, sur effectivement des obligations qui seraient insoutenables pour ce genre de plateforme. Donc Wikipédia est en capacité, comme tu le dis très bien, de se défendre, et ça bénéficie à plein d'autres plus petites plateformes qui n'ont pas la même capacité à se faire entendre. Bouki ?
Ce qui est amusant, c'est que moi, Wikimedia, je l'utilise comme moteur de recherche. Plutôt que d'aller sur des moteurs de recherche, je tape dans Wikipédia et souvent, il y a plein d'informations, plus le site web que je cherche à la base. Donc, on peut se passer de moteur de recherche grâce à Wikipédia.
Et je vais en profiter aussi pour... Alors, il y a plein de manières de contribuer à Wikipédia. Alors, parfois, c'est pas forcément une communauté qui est extrêmement simple dans laquelle entrer, parce qu'il y a beaucoup... Et c'est normal, parce que c'est un outil, une encyclopédie nécessite, on va dire, une certaine rigueur dans la publication. Il y a des critères qui sont... peut-être un peu de temps, la courbe d'apprentissage peut être là, mais il y a plein d'initiatives autour de Wikipédia qui existent. Et là, je pense à Nous Toutes, par exemple, dont l'objectif est de valoriser des femmes qui ont, enfin, voilà, qui ont participé de manière ou d'une autre à, on va dire, au savoir humain. Et donc, qui se retrouvent et qui organisent des événements, des ateliers de contribution à Wikipédia sur leur thématique. Et c'est des bonnes manières aussi d'apprendre dans des cadres, voilà, avec d'autres personnes à l'art de contribuer à ce bien commun qui est Wikipédia.
Et les 100 pages.
Les 100 pages, un autre très bon exemple.
Les 100 pages avec un E majuscule.
Alors c'est les 100 pages, Nous Toutes, c'est une autre très belle, mais qui n'est pas directement sur Wikipédia, donc tu me corriges et tu le fais bien.
Le deuxième texte.
Il y a le deuxième texte, voilà, il y a d'autres, voilà, c'est effectivement deux super initiatives, et à nouveau je les listerai sur la page de l'émission. Un autre mot sur Wikipédia ou on souhaite un autre anniversaire? Non, pas. Bon, je peux. Après tout, on peut l'utiliser autant qu'on veut, j'ai récupéré la sonnette, c'est la magie du direct.
Fantastique, merci Fred.
Donc un autre anniversaire et d'un projet qui est à mon sens tout aussi important pour la sauvegarde des connaissances, même s'il est bien moins connu, c'est Software Heritage qui fête ses 10 ans. Alors c'est une initiative qui vise à, qui vise à préserver le patrimoine applicatif, quel que soit le sort des éditeurs ou les feuilles de route de ceux-ci. Parce que moi j'adore, alors j'ai oublié de chercher, mais je sais qu'ils sont déjà intervenus deux fois dans Libre à vous. Je vais retrouver, je mettrai les liens à nouveau dans l'émission, mais voilà, moi je trouve que c'est un projet absolument formidable. C'est une vraie bibliothèque d'Alexandrie, le projet est démentiel, mais ô combien important.
J'ai lu l'article sur la question. Il y avait une déclaration de Morane Grunpeter, qui est la directrice de la Vertical Open Science donc au Software Heritage, et qui explique un peu les motivations. Archiver, c'est d'abord préserver sur le long terme et pouvoir retrouver les sources en cas de besoin, parce que l'applicatif est toujours utilisé quelque part, ou pourrait inspirer la création d'un nouveau logiciel. Mais il y a aussi un autre avantage à tout archiver au même endroit, étudier les sources. On peut ainsi, par exemple, réaliser des statistiques sur les licences choisies, les mises à jour opérées, les langages utilisés, etc. Voilà, donc ça rappelle en fait tout ce qu'il y a autour d'open source, et ça formalise, ça pérennise sur la durée tout un tas de petits projets qui pourraient tomber dans l'oubli ou complètement être perdus.
Ce qui a deux aspects, effectivement, il y a l'importance du savoir logiciel qui est produit, et puis de préserver ce patrimoine, mais aussi des considérations très concrètes et pratiques. On peut imaginer une administration, une entreprise, quelqu'un qui utilise un logiciel qui n'est plus maintenu pour différentes raisons, et le code existe encore et encore reste accessible, donc c'est aussi une condition de pérennité dans le temps pour des projets qui ne sont peut-être plus maintenus, et ça peut concerner aussi des logiciels libres. Sonnette. Un autre anniversaire des 10 ans, cette fois-ci les 10 ans des rencontres hivernales du logiciel libre, un événement suisse où je crois que tu étais présente, Bouki.
Ah, effectivement, j'y suis allée. Autant le dire, autant j'ai eu de problèmes avec le train À l'aller comme au retour, autant l'événement là-bas était juste extraordinaire avec des gens merveilleux. J'ai vraiment hyper envie de revenir. J'avais été invitée pour participer à une table ronde geek et diversité. Puis j'avais proposé quelque chose sur l'absence programmée histoire de cracher un peu sur Microsoft et son arrêt de support. Donc voilà. Et puis finalement, comme Ploum n'était pas là, j'ai aussi participé à une table ronde sur l'art libre. J'étais pas la seule puisque j'étais accompagnée de Julie Chaumard qui a fait plein d'interviews de plein de gens. Tout le week-end, elle n'a pas arrêté une seule fois. Et il y avait aussi Vincent Calam, un de nos chroniqueurs chéris, qui était là pour faire une table, justement, art libre avec moi. Et juste avant, il avait fait un truc que j'ai trouvé extraordinaire. Il avait parlé des musiques sur Libre à vous, du travail qui avait été commencé d'abord sur un pad, puis ensuite sur un tableur, et puis maintenant qui apparaissait sur le site internet. Donc si vous voulez écouter de la musique libre et que vous n'avez pas envie d'aller chercher dans tous les sites qu'il a cités pendant sa conférence, vous allez sur le site Libre à vous et vous verrez à peu près 438 morceaux de musique. Voilà.
Alors deux questions pour toi. Est-ce que donc tu dis que voilà, c'est Air Libre, donc c'est pas que les logiciels, ça restait sans doute un événement grand public. Et je précise que c'était donc le week-end qui vient de passer, les 24 et 25. Donc j'imagine que c'est tous les ans à la même période. Donc c'est grand public pour des personnes qui éventuellement seraient voudraient aller en Suisse ou sont dans le coin.
Alors au début, ce que j'ai compris, c'était un événement entre soi, hein, pour se réunir tous ensemble, parce que ils sont un peu partout de Suisse romande. Mais cette année, en tout cas, pour la 10e édition, il avait fait un truc grand public. On a mangé comme des rois. C'était super bon. Voilà, c'est assez rare que soit proposé comme ça, ce genre d'événement. Moi, c'était la première fois que j'y allais, donc j'ai découvert. Je sais que j'irai pour la 11e édition, c'est sûr, en espérant que j'aurai moins de problèmes avec les trains.
D'accord, donc si vous êtes du côté de la Suisse et que vous avez très envie de rencontrer Bookinet, réservez déjà votre week-end autour du 25 janvier 2027.
Il y a des grandes chances que j'aille faire une étape tour des Gules là-bas.
Super. Je rappelle que les Gules, c'est les groupements d'utilisateurs et d'utilisatrices des logiciels libres. C'est voilà, ces associations qui peuvent notamment, et on va en parler un peu plus tard, vous aider à installer des systèmes libres sur vos ordinateurs si vous avez besoin d'être accompagné. Et puisqu'on parle d'événements, alors c'est un anniversaire moins rond, mais un anniversaire quand même, c'est les 24 ans du FOSDEM, qui auront lieu à Bruxelles le 31 janvier. Alors effectivement, le 24, c'est l'anagramme de 42, donc c'est aussi peut-être un anniversaire important. Alors j'évoque cet événement déjà parce que c'est un événement important du logiciel libre, même s'il est plus orienté technique. Et Pierre, je crois que tu y seras présent. Alors, est-ce que tu veux nous rappeler en quelques mots ce qu'est le FOSDEM et puis de quoi parlera ta conf?
Alors, le FOSDEM, c'est la grande messe annuelle européenne du logiciel libre. Donc, alors c'est en langue anglaise, hein. Par contre, il va falloir que je me dérouille de ce côté-là. Ça fait un peu peur, mais bon. Bref, et donc en fait, c'est assez technique, hein. C'est plutôt orienté développement, distribution, etc. Mais il y a quand même un angle aussi plus accessible pour les non-informaticiens. Et donc, moi, j'y parlerai du projet Centipede RTK et de Millipede qui sont un projet collaboratif pour permettre à tout un chacun, avec un investissement modique, d'avoir des positionnements centimétriques en géolocalisation avec les constellations de satellites. C'est notamment très populaire chez les agriculteurs. Ils sont 70% en France. Enfin, en France, c'est là que le projet a démarré, en fait, Centipede. Il y a dans les 700 agriculteurs qui collaborent en envoyant leurs propres corrections sur le réseau. Et on a un logiciel dont j'en parlerai à FOSDEM qui centralise tout ça et qui permet de passer à l'échelle sur différents pays et dans le monde idéalement.
D'accord.
Et
j'ai envie de creuser un peu le truc parce que je trouve toujours intéressant de montrer comment des sujets qui sont visiblement très techniques et qui peuvent paraître finalement presque ésotériques quand on n'a pas ces connaissances-là, mais visiblement ont des applications très concrètes. En quoi ça aide, par exemple, les agriculteurs?
Alors, les agriculteurs, c'est pour notamment les tracteurs autonome pour éviter de pour arroser de manière sélective ou désherber de manière sélective sans arroser comme un bourrin tout un champ. Enfin, le tracteur peut repasser exactement au même endroit entre les semis et les différents épandages à faire. Ça sert aussi en milieu sauvage. Pour retrouver un petit plan, les chercheurs retrouvent un petit sapin naissant, et pour le retrouver l'année suivante, pour savoir où il en est, c'est bien d'avoir un bon positionnement. C'est en étude de marée également, pour avoir une plus grande précision sur les marées. Il y a tout un tas d'applications, en fait, dont effectivement, qu'on a du mal à imaginer a priori. Et ça, il y avait des réseaux commerciaux qui vendaient ça extrêmement cher, hein, des abonnements qui se comptaient en milliers ou dizaines de milliers d'euros par an. Et on s'aperçoit qu'avec un minimum de matériel, on peut avoir un retour sur investissement et partager ces données-là avec plein d'autres personnes qui peuvent en avoir une utilité. Moi, je m'en sers pour mesurer des vitesses de train. Voilà.
Très bien. Alors, je pense que Pierre rigole parce qu'il est connu pour être férivopathe.
Oui, voilà. J'avoue ma maladie, ma tare en la matière.
Benjamin, tu voulais réagir ?
Ouais, tu disais c'est le plus grand événement du logiciel libre d'Europe. Moi, je me demandais avec un collègue l'autre fois, c'est pas le plus grand du monde ?
Ah, c'est possible, j'avoue. Bah, y a quelques, je crois qu'on est entre 8000 et 15000 développeurs, enfin, participants plutôt, qui viennent. Donc c'est assez énorme. Et effectivement,
pas visiteurs, hein.
Personne qui viennent.
Dans les 8000, tu comptes les visiteurs ou juste les...
Alors, je sais pas, j'ai vu différents chiffres, j'ai vu du 8000, j'ai vu du 15000, je sais pas exactement.
Parce que c'est gigantesque.
Oui, c'est énorme.
C'est l'Université libre de Bruxelles.
Ça crame toutes les réservations en hôtel autour de l'Université libre de Bruxelles. C'est assez, oui, c'est énorme. J'y suis jamais allé, donc je me rends même pas compte moi-même de l'énormité du truc, mais c'est ultra connu, oui.
D'accord. Alors, j'imagine que FOSDEM enregistre, je pense qu'il y aura des enregistrements.
Normalement, tout est enregistré en vidéo, oui, absolument.
Donc, si vous parlez anglais et que le sujet que Pierre a évoqué vous intéresse, on devrait pouvoir retrouver ta conférence.
Voilà,
en vidéo.
Je ferai les sous-titres en français, le cas échéant. Voilà.
Et une question que je voulais te poser et que j'ai oublié entre temps, est-ce que tu sais si les rencontres hivernales du logiciel libre ont capté en vidéo leurs conférences et si elles seront disponibles?
Oui, tout a été enregistré.
Eh ben, parfait. Benjamin.
Ouais, et moi je voulais juste vous donner rendez-vous également au FOSDEM puisque j'y serai samedi et dimanche. Je donnerai une conférence sur Castopod samedi dans la Dev Room Social Web et une sur Pod Libre dans la Dev Room Audio Vidéo dimanche, c'est vers midi les deux.
Rappelle en très peu de mots ce que sont ces deux solutions.
Castopod, c'est une solution open source libre et gratuite d'hébergement de podcasts. Et Pod Libre, c'est un peu une surprise, c'est un logiciel de montage de podcasts. Donc pour desktop, laptop, qui est en cours de développement et sur lequel on va commencer à communiquer.
Avant-première dans Libre à vous.
Avant-première, ouais.
Et ben c'est super. Alors, actualité suivante. Alors, c'est pas tout à fait une actualité, c'est un article qui est paru sur le site ZDNet le 5 janvier qui titrait « Linux sera invincible en 2026, mais une légende de l'open source ». Pourrait ne pas survivre, c'était le titre de cet article. Alors on est plutôt, ce que j'ai qualifié, une sorte de méta-article qui aborde plusieurs sujets, exprime plusieurs positions prises par le journaliste. On pourra voilà, en discuter autant que vous voulez dans le temps qui nous est imparti. Alors tout d'abord, selon lui, on constaterait une migration marquée de Windows vers GNU Linux, notamment à cause de l'IA imposée par Microsoft. Mais, car il y a souvent un mais, selon lui, il y aurait trop de distributions, c'est-à-dire de versions de GNU Linux, ce qui créerait une barrière à l'entrée pour les utilisateurs et les utilisatrices. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? Déjà, sur le fait qu'effectivement, on marquerait une migration, quelle serait la part de cette IA imposée dans le choix, et sur le fait que trop de distributions serait un problème. Bouki.
Alors déjà, on va citer le journaliste qui s'appelle Steven Wolfgang Nichols, qui écrit souvent des articles autour du logiciel libre et de l'informatique. Et puis, en ce qui concerne la migration de Windows vers Linux, il suffit de parler avec des associations, les groupes d'utilisateurs de logiciels libres, les GUP dont je parlais tout à l'heure, pour se rendre compte que depuis octobre 2024, ils sont un peu envahis de grands publics qui vient se faire installer, quoi. Ils sont même plus assez nombreux. Donc c'est assez impressionnant cette augmentation de gens qui viennent vers Linux. Je crois qu'on a même augmenté le petit chiffre de pourcentage de gens qui utilisent du Linux. Donc ça devient assez impressionnant. Je rappelle du coup, j'en profite, hein, Cocorico, je fais notre pub, le site Adieu Windows, bonjour le libre. Donc l'URL c'est adieuwindows.april.org qui recense tous les événements enregistrés sur l'agenda du libre qui vous permettent à vos grands publics d'aller rencontrer soit des organisations, soit de participer à des événements. En plus, je crois qu'on a des chiffres assez sympathiques au niveau du nombre d'événements. On a beaucoup augmenté ces derniers mois parce que forcément toutes les associations mettent tous les événements à l'année. Donc on est passé à 715 événements prévus. Et des organisations, je suis hyper malheureuse parce que je voulais absolument qu'on atteigne les 100 et on est à 97 ou 97, comme je disais ce week-end. Donc voilà, on a déjà pas mal d'associations qui participent et je pense que ce chiffre va encore augmenter quand je vais commencer à contacter autre chose que des GUL.
Juste aussi sur Radio Windows, et c'est quelque chose, on l'a évoqué juste avant, nous on recommande vraiment, sauf si on a déjà une grande expertise qu'on peut accompagner quelqu'un d'autre, faites-vous accompagner, c'est relativement simple, mais il peut y avoir, ça peut arriver un souci à l'installation, mais comme ça peut arriver avec n'importe quel système d'exploitation, libre ou pas, il y a des changements d'habitude qu'il faut prendre, il y a peut-être d'autres logiciels, des choses que vous... Faites-vous accompagner pour faire ça en douceur, il y a plein d'associations qui sont là pour vous aider. Et puis c'est la force du libre, c'est de paquet de l'humain en fait dans la chaîne. On n'est pas tout seul à faire des recherches internet, à avoir 2000 tutos qui disent des choses parfois différentes, qui correspondent pas à notre environnement, etc. Donc faites-vous accompagner et Adieu Windows sert à vous aider à cela. Benjamin ?
Ouais, sur la multiplicité des distributions, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse s'en émouvoir, puisque le principe du logiciel libre, c'est qu'on est libre, et on est libre de faire autant de distributions qu'on veut. Donc moi, je trouve que c'est plutôt chouette de pouvoir choisir, et il y a distribution un peu pour tout.
Oui, mais laquelle ? Quand tu n'y connais rien et que tu arrives, tu sais pas. Tu vois plein de distributions, il faut que tu fasses un choix.
L'importance de se faire accompagner.
Il y a un vertige du choix quand même, effectivement, quand on voit pour quelqu'un qui connaît pas et qui voit qu'il y a des dizaines et des dizaines de choix, et c'est bien effectivement de se faire accompagner pour.
Mais comment tu choisis un téléphone plutôt qu'un autre ?
Ben justement, c'est compliqué. mais c'est clair, c'est clair.
C'est la première fois que je voyais ce reproche, j'étais un peu surpris. Ça m'évoquait comme quand on critiquait, c'était en 2000. Autour de 2000, qu'il y avait eu trop de candidatures à gauche et que c'était ça le problème, alors que moi,
oui, mais ça, c'est toujours vrai. Hein.
Oui, mais quelque part, est-ce que c'est pas...
Il y a trois gauches unitaires, je t'exagère un peu.
Je trouve ça bizarre dans une démocratie représentative de se dire il y a trop de variétés d'opinions représentées, trop de personnes. Au contraire, c'est plutôt signe d'un fonctionnement sain et que c'est présenté comme un problème. Donc effectivement, c'est sain qu'il y a différentes distributions qui existent, qui peuvent représenter différents usages. Alors après, pour choisir, l'importance de demander à des gens qui peut-être peuvent nous aiguiller, parce que c'est pas simple de faire des choix, et c'est vrai pour plein de choses en fait.
Et puis Bouquinette, tu disais qu'il y a vraiment de plus en plus de gens, il y a une accélération de l'accélération, de la dérivée seconde, du nombre de gens qui s'intéressent à Linux. Je pense qu'il y a deux choses, deux événements concomitants. Il y a déjà le fait que Windows 11 bloque tout un tas de machines qui sont bonnes pour la poubelle si on... Voilà. Merci Microsoft.
Obsolescence.
Et qui fait que on n'a plus le choix. Et puis l'autre aussi, c'est qu'il y a quand même un degré de maturité aujourd'hui. Parce que le logiciel libre, ça veut dire que tout le monde peut contribuer. Et moi, ma conviction, c'est que forcément, c'est mieux, puisque tout le monde peut donner son avis. Par contre, si tout le monde donne son avis, forcément, ça va moins vite. Ensemble, on va moins vite, mais on va plus loin. Et aujourd'hui, justement, je pense qu'on est arrivé plus loin. Il a fallu le temps. Et je pense en particulier à GNOME, qui est l'interface, ce qu'on voit en surface dans Linux, qui est présent dans plusieurs distributions. Donc en fait, il y a plusieurs distributions, mais il y en a qui partagent la même interface. Vous prenez un Fedora et un Ubuntu, si vous y connaissez rien, vous verrez pas la différence. Et moi, aujourd'hui, je suis un grand, grand fan de GNOME. Je trouve que c'est génial. C'est super pratique. C'est beaucoup plus simple. Mais vraiment, c'est plus simple à utiliser que macOS ou que Windows. Configurer le Wi-Fi sur Linux, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Configurer une imprimante sous Linux, c'est plus facile que de configurer une imprimante sous Windows. On revient de loin, mais aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, on arrive à un lieu, à un moment, je crois, où, effectivement, il y a un point de bascule.
Et même, ne serait-ce que l'installation est plus simple quand on n'a pas l'habitude. En fait, personne n'installe Windows, parce qu'en général, les gens le récupèrent sur un ordinateur neuf. Par contre, Linux, souvent, il faut l'installer soi-même, la plupart des temps, du cas. Et pour avoir fait les deux, je peux dire que Linux est beaucoup plus facile à installer. Windows, c'est à se tirer une balle, franchement, quand on... Enfin, bref.
Surtout si tu refuses tout le tracking de Microsoft.
Alors, en plus, oui, t'es obligé de trouver les petits trucs pour te désactiver. Alors, Microsoft a... En fait, je pense que c'est aussi un des facteurs d'usure vis-à-vis de Windows, c'est que Microsoft a été en position tellement dominante qu'ils ont trop poussé leur avantage. Donc ils ont merdifié le système, comme dirait Cory Doctorow, avec des pubs à la con, des articles débiles de journaux qui sont collés dans un coin, qui alourdissent tout, l'obligation de s'enregistrer en ligne. Il y a eu aussi sur l'IA, il y a eu leur délire sur l'IA ils ont mis un système qui consistait en gros à tout le temps faire une copie d'écran en permanence de tout ce que tu fais sur ton ordinateur pour que l'IA puisse te donner des conseils après. Mais ça pose évidemment des gros problèmes de confidentialité de ce qu'on fait. Et Microsoft n'a pas du tout compris ça, en fait. Ils sont complètement à la ramasse là-dessus. Ils ne comprennent rien aux exigences des utilisateurs en matière de vie privée. Et c'est en plus exacerbé maintenant par l'administration Trump, le Cloud Act et tous ces trucs-là, qui fait qu'on sait pas trop où nos données vont être stockées. Et par contre, on sait très bien que si Microsoft en a, il est obligé de les céder à l'administration américaine si on le lui demande. Donc il y a tout un tas de... Non seulement il y a de la méfiance légitime de la part des utilisateurs, mais il n'y a aucun effort de Microsoft pour rassurer et pour nous protéger. Donc effectivement, je comprends tout à fait qu'il y a un mouvement de fuite de Windows vers des solutions qui sont tout à fait comparables et même meilleures.
Et puis même au-delà de ça, hein, parce que j'en parlais hier avec mes compères de RDGP, le fait que ces données existent, c'est-à-dire qu'il y a des copies d'écran, même si c'est pas le gouvernement américain qui va les utiliser, elles peuvent être utilisées contre moi dans le cadre d'une commission rogatoire si un juge vient voir sur mon ordi. Je pense à cette malheureuse Carla Bruni dont le téléphone a été utilisé et on a compté ses pas. Et en fait, les données à caractère personnel qui étaient dans son téléphone ont été utilisées contre elle. Et c'est pas parti chez un GAFAM ou quoi que ce soit. Mais donc, cette manie de créer, de collecter de la donnée à caractère personnel, même localement, c'est dangereux. C'est dangereux et il faut le refuser, il faut dire non.
Sage parole, Cassandre, mais...
Et libérer Carla Bruni.
Très bien. Il y avait d'autres choses évoquées dans cet article. Je vois que le temps avance. Est-ce qu'il y avait un des points sur lequel vous auriez aimé l'un ou l'une
L'article envoie du bois. Hein.
C'est des positions d'un journaliste qui effectivement intervient régulièrement sur ce sujet, mais qui stimule aussi des réflexions et des débats. Il faut les avoir aussi sur nos propres outils, nos propres réflexions.
Il y a un petit passage sur Firefox et l'IA. Je sais que la fondation Mozilla a voulu rajouter un peu d'IA dans Firefox parce que c'était à la mode. Ils se sont pris des retours de bâton, donc ils ont un peu reculé là-dessus. C'était pas du même niveau que ce que faisait Microsoft dans Windows, donc il y a différents degrés.
C'est vrai que c'est une difficulté avec Firefox, c'est que c'est pas le seul, mais c'est vraiment le principal navigateur web disponible sous licence libre, et on a besoin de ça pour s'affranchir aussi des navigateurs web privateurs. Et puis bon, ils sont gérés par Mozilla, qui est une fondation à but non lucratif, mais dont certaines décisions, notamment là, sur l'IA, ont pu être reprochées par les communautés. Et on voit aussi là cette difficulté qui existe et qui est une réalité aussi. Donc il faut pas taper trop fort sur Firefox parce qu'on en a besoin, voilà. Mais ça nous empêche pas de regretter certains choix.
Ça empêche pas d'être critique quand il faut, y a des choses qu'on peut critiquables.
C'est un petit détail pour les geeks, hein, parce que manifestement le langage Rust devient le langage normal pour le noyau Linux. Ils sont en train de réécrire pas mal de choses en Rust, donc manifestement le journaliste voulait appuyer là-dessus. Donc moi j'y connais rien en technique. Alors,
normalement
Rust,
quand même, le C est le vieux langage historique de pas mal de choses. Donc Rust qui a des qualités intrinsèques essaye de gagner un peu de place dans le noyau Linux. Je sais qu'il y a eu des petites guéguerres de chapelle comme les informaticiens en ont la spécialité. Il y a eu même des engueulades à Fosdem là-dessus lorsque des contributeurs ont voulu présenter leur travail sur Rust. Mais donc effectivement il faut avancer, faut essayer d'avancer dans la collégialité, dirons-nous. Voilà.
Il n'y avait pas Microsoft aussi qui voulait tout mettre en Rust, mais c'était totalement impossible.
Alors c'est compliqué.
C'est quoi, c'est fake news?
Il y a un développeur de chez Microsoft qui venait d'être... Alors je sais pas s'il venait d'être embauché ou s'il venait d'avoir une promotion, mais il a fait un billet sur LinkedIn pour expliquer que il allait devoir travailler avec l'IA pour traduire les sources Microsoft dans d'autres langages, et que leur but à terme c'était que tout Windows soit réécrit en Rust. Alors ça a hurlé, Microsoft s'est fait engueuler, et alors le gars a un petit peu reculé en disant non mais moi c'est juste un projet interne, et il a un petit peu exagéré son influence future, donc il y a encore la discussion là-dessus. Mais effectivement Microsoft quand même compte utiliser l'IA en tout cas pour traduire plus facilement du code source d'un langage vers un autre. Voilà. Et notamment Rust qui a des cas. Alors moi j'ai utilisé l'IA pour que je connais pas grand chose à Rust, et c'est pas facile à apprendre. Hein. Pour faire des tutoriels personnalisés, on demande à un modèle de langage écris-moi tel code exemple en Rust, et ça marche très bien. Parce que Rust c'est pas forcément évident. Au niveau cours d'apprentissage, c'est pas évident.
Très bien.
Je vous propose de faire à présent une pause musicale avant d'enchaîner sur nos autres sujets. Nous allons écouter Orbita par Olo Lostrega, Lostrogo, pardon. On se retrouve juste après, toujours dans Libre à vous, pardon.
Non sei onde sta
Nous venons d'écouter Orbita par Olo Lostrego, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Vous écoutez toujours Libre à vous, l'émission de l'April sur le logiciel libre. Je suis Étienne, nous discutons de l'actualité autour des libertés informatiques avec Bouquinette, Benjamin et Pierre. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors,
Je me suis trompé, j'ai changé d'onglet et de fenêtre au lieu de remonter dans mon document. Alors, on va passer ce que je pense être le plat principal, peut-être, de ce café libre. En tout cas, c'est un grand classique de café libre, la souveraineté numérique à la sauce tension géopolitique. Alors, on peut ainsi évoquer, pour commencer peut-être, une série de tribunes publiées dans l'Humanité le 14 janvier sur la thématique « Comment s'émanciper des GAFAM ?». Et il se trouve qu'une de ces tribunes a été signée par une certaine bouquinette.
Oui, effectivement, j'ai eu la chance d'être contactée par le journaliste. Alors, c'est Diego qui m'a contactée sur un réseau social que je nommerai pas, pour écrire un texte, et j'avais carte blanche, et j'avais le droit à 3000 signes. J'étais fière, vous pouvez pas savoir comme j'étais fière. Bon, il se trouve que 3000 signes, j'ai commencé à écrire, je suis arrivée très très vite à 16 000 signes, et le temps que je me rends compte qu'il fallait que je fasse un résumé, on était à une semaine de l'échéance, mais voilà, j'ai pu établir un peu la situation, un peu expliquer ce qu'étaient les logiciels libres, et puis surtout quel genre de plaidoyer on pouvait faire, quel genre d'action on pouvait mener pour sortir des GAFAM. Alors dans le numéro du 14 janvier, il y avait une autre tribune d'Alexandre Basquin, qui est sénateur PCF du Nord. Et puis dans la semaine d'après, il y avait une tribune de Framasoft avec Pierre-Yves Gosset et des Ordi Libres avec Marianne, j'ai pas retenu son nom parce que comme je la connais vraiment sous Marianne, je connais pas son nom, mais elle est merveilleuse, je la rencontre à la fête de l'UMA quasiment tous les ans, et qui avait aussi écrit un texte qui ressemble un peu au mien d'ailleurs, où elle donne d'autres alternatives. Et donc bah, les gens qui lisent l'Humanité ont pu avoir, on peut entendre parler des logiciels libres, et ça c'est quand même assez rare pour être noté. Bien que je suis méchante, en octobre, ils avaient entendu parler d'A2 Windows, puisque on avait le droit à un petit encart, bon, tout petit, mais il était là, c'était important. Donc voilà, donc c'est la deuxième fois que l'UMA fait appel à nous, et bah, ça fait du bien.
C'est important de pouvoir toucher les publics qui ne sont pas forcément dans nos premiers cercles de contact. C'est aussi l'objet, l'idée de Libre à vous en passant par l'AFM, c'est de pouvoir sensibiliser les personnes qui ne connaissent pas forcément le logiciel libre et tous les enjeux qui s'y attachent. Alors ça fait écho, je trouve, un petit peu à ta chronique tout à l'heure, Benjamin. Tu parles aussi notamment de la colonisation numérique, je trouve le terme très juste. Et puis dans cette logique, il y a un article intéressant qui a été publié sur Next, qui se parle de la vassalisation de l'Europe, qui qualifie le numérique d'infrastructure de pouvoir. Et je trouve, voilà, ça va aussi dans le même sens que ces réflexions. Est-ce que déjà vous souhaitez intervenir plutôt sur ce sujet global? Sinon, on peut passer directement à un sujet plus précis qui rentre dans cette logique, sur ces notions de vassalisation, l'enjeu de l'infrastructure en fait. Je pense que c'est un sujet dont on parle peut-être moins.
Si ce qu'on peut dire, je pense en introduction quand même, c'est que ces sujets-là, ils sont pas du tout neufs. Mmh. Ça fait des décennies et des décennies que c'est le cas, que c'est latent, mais que personne le voit, ou c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, que nous on prêchait un peu dans le désert. Et je pense que très sincèrement, il faut dire merci Trump, parce que il est complètement décomplexé, il dit ce qu'il pense, ce qui lui passe par la tête. Souvent c'est de la bouillie, du vomi, mais ça oblige tout le monde à se positionner. Et si on avait eu Kamala Harris, il faut pas se leurrer, hein, la vassalisation numérique, elle en serait exactement au point où elle en est aujourd'hui, sauf que c'est bon quoi, les Américains c'est nos potes, on peut leur filer nos données de santé, alors que là sur le Data Health Hub, on voit bien que ça commence quand même sérieusement à grincer des dents. Il y a un an, enfin un peu plus d'un an, tout le monde s'en foutait, quoi, à part Philippe Latombe, qui était un peu tout seul en Vendée à dire que c'était pas normal. Il y avait aucun écho. Aucun.
D'accord. C'est le ElsaTop, qui est une plateforme de partage de données de santé, et Philippe Latombe est un député qu'on connaît bien sur ces sujets. Parenthèse rapide, c'est Marianne Profeta, me dit Fred.
Profeta.
Voilà, des Ordi Libres.
Merci, donc. Fred.
Et donc je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est de voir que le nouvel éclairage, la lumière qui permet à tout le monde d'ouvrir les yeux, elle s'appelle Donald Trump. C'est triste. Surtout nous, je pense que autour de la table, ça nous enquiquine tous un peu, mais c'est comme ça.
Comme quoi, il faut qu'il y ait ce genre de...
Je ne pas de lumière quand même, mais j'entends ton propos.
Comme quoi, il faut qu'il y ait une menace réelle et visible pour que les gens prennent nos discours au sérieux, quoi.
Visible, parce que réelle, elle l'était déjà.
Oui. Alors, elle était réelle, c'est-à-dire elle était beaucoup plus sournoise, comme tu le disais. Mais là, quand on se demande s'il ne va pas utiliser le numérique comme pression pour récupérer le Groenland, il l'a pas fait, mais on était pas sûr qu'il le ferait pas en fait, hein, vu les extrémités auxquelles il recourt.
On n'est jamais sûr en fait avec lui. On n'est jamais sûr.
Oui, justement, c'est ce qui provoque, enfin, ça favorise la prise de conscience, je dirais, des risques derrière, parce que on a l'impression qu'ils sont plus proches de se réaliser à tout moment, si lui on prend l'envie en fait, ou même le besoin.
Et puis ça se réalise déjà quand on voit les cours de la, non, les avocats ou les juges de la Cour pénale internationale qui sont considérés comme des terroristes, qui peuvent plus utiliser leur carte bancaire, faire des réservations sur des plateformes. Je veux dire, la menace, elle est peut-être pas encore sur lui, mais elle est quand même sur les juges. Il n'y en a pas qu'un. On n'en connaît qu'un parce qu'il est français, c'est Maître Guillou, mais il y en a plein d'autres. Il y en a 9 ou 11, me disait quelqu'un en Suisse ce week-end, qui sont considérés comme des terroristes.
D'accord, peut-être. Il a même, Trump a même envisagé de faire pression sur les juges qui doivent juger
Marine Le Pen.
L'affaire du RN, ouais. pour empêcher son inéligibilité, en fait.
Mais on peut peut-être juste préciser, hein, notre Maître Guillou, ce qui lui arrive, c'est qu'il... Les sociétés américaines n'ont plus le droit de lui rendre de service, de contracter avec lui. Donc il a plus accès au réseau Visa, au Visa Mastercard, donc il peut plus payer par carte bancaire. Il a plus accès à Google, donc il a plus de téléphone Android. Il a plus accès à Apple,
Outlook.
Donc il a plus accès à un téléphone iOS. Il a plus accès à Outlook. Donc en fait... Ben, il se retrouve, alors on dit dans les années 90, plutôt dans les années 80 en fait. Hein. Et ça peut arriver à tout le monde sur la décision d'une personne.
Ouais, et si quelqu'un l'aide, ces personnes-là peuvent se retrouver en prison aux États-Unis.
Oui, cette procédure, elle existait déjà, mais elle était réservée aux terroristes, oui. Aux Iraniens, aux Cubains, aux Nord-Coréens. Là, ce qui est nouveau, c'est que ça arrive à quelqu'un qui est proche de nous, puisqu'il est français. Donc on s'en émeut plus facilement.
Arrive à des juges de la Cour pénale internationale, quoi. C'est quand même une haute institution qui est censée rendre le droit au niveau mondial, quoi. C'est pas juste quelqu'un qui est proche de nous.
Dans ce sens-là, moi, je veux pour tempérer. Alors, je sais que c'est du troll et parfois ça stimule le débat. C'est très bien sur le fait que finalement Trump nous permet de voir les problèmes. Il ouvre le débat là où on se masque et cache les yeux.
Je
pense qu'il reste une. Ouais, mais il y a une différence quand même. Si ça avait été par exemple Kamala Harris, on aurait été toujours dans ces logiques de vassalisation, etc. Mais là, Trump, il amène quand même toute une notion de rapport de force débridé, là où il y avait quand même le souci de maintenir, alors à quel point c'était du spectacle, j'en sais rien, mais quand même de maintenir certains équilibres diplomatiques. Et là, on voit par exemple, notamment sur le Digital Services Act ou même sur le RGPD, qui sont des outils juridiques quand même assez puissants pour rééquilibrer théoriquement les rapports de force économiques. Et là, il fait un tel bras de fer, Trump, qu'on voit que la Commission européenne, sur certains aspects de ce Digital Services Act, donc un règlement sur le marché numérique, sur les services numériques, pardon, Timor revient un peu en arrière. Et donc ça, c'est des effets très concrets qui n'auraient peut-être pas été mis de la même manière. Donc c'est compliqué. De toute façon, on peut toujours refaire un petit peu, refaire le film, comment ça serait passé différemment. Mais il y a quand même aussi des aspects très concrets, très matériels, d'impact, à ne pas négliger aussi sur...
Il est clair que les GAFAM, les big tech américaines, comme on les appelle, sont tout à fait, enfin, utilisent Trump pour faire alléger les lois de l'Union européenne qui leur cassent les pieds. Hein.
Ah bah, ils sont tous derrière lui aujourd'hui. Hein. Ils le soutiennent tous.
Oui,
et rien que pour ça, c'est problématique.
Absolument.
Il n'y a pas un seul patron d'un de ces GAFAM qui n'est pas derrière Trump.
Donc passer au logiciel libre, parce que le logiciel libre permet d'éviter ce genre de concentration de pouvoir autour d'un outil. Personne, il n'y a aucun individu particulier ou corporation particulière. Alors ça peut-être se débattre sur ça, mais beaucoup moins en tout cas. Et puis on a la maîtrise des outils au final. On veut dire qu'on ne dépend pas de la même manière d'une décision centralisée.
D'ailleurs, justement à ce propos, dans l'article de Next que tu citais, c'était un compte rendu d'une conférence et effectivement il y avait cette idée qu'il faut découper le pouvoir en petits morceaux pour limiter les abus du pouvoir, forcément.
Et plus on concentre.
Donc le logiciel libre, effectivement, il participe.
Plus on concentre, plus ça fait un maillon unique à casser, ça peut faire des dégâts beaucoup plus importants. Vas-y, Marjorie.
Ouais, dans le logiciel libre, en fait, il y a logiciel, mais surtout il y a libre. On l'oublie souvent, mais c'est super important.
Oui, et qui est plus important sans doute que l'aspect logiciel.
Parce
en
réalité. On pourrait se dire aussi que il nous faudrait des GAFAM européens. Ça, pourquoi pas, après tout, ça pourrait être une alternative. On pourrait se dire, faisons comme eux, développons des GAFAM européens. Ouais, nous, c'est pas du tout ce dont on a envie. On a envie de logiciels libres parce que, effectivement, avec des GAFAM européens, on pourrait se dire, super, au moins on sait à qui on file nos données. Ça résoudra quelques problèmes, mais pas tous.
Je vais citer, Marie-Odile mentionne, alors Marie-Odile qui est notamment en charge du groupe transcription pour l'appli, donc qui transcrit des contenus audio vers de l'écrit, et qui mentionne Asma Mala, qui a publié quelque chose sur les GAFAM bras armés des USA, qui a commis pas mal de travaux sur ces sujets, qui est effectivement une femme très intéressante et qui a une expertise assez fine sur le sujet de la géopolitique autour du numérique. Et on vous invite, si vous voulez creuser le sujet, à découvrir les transcriptions ou les audios, les vidéos de cette personne. Dernière intervention, Benjamin, puis on va rentrer dans le sujet.
Une toute dernière, parce que j'ai un peu ouvert un sujet parallèle là sur le est-ce qu'il nous faut des GAFAM européens. Il y a une question que moi je me posais, hein, c'est mais vu des États-Unis, qu'est-ce qu'ils pensent des GAFAM? Et moi j'étais persuadé que ils disaient c'est super, de toute façon les GAFAM c'est chez nous. Donc et il se trouve que il y a deux semaines j'étais au CES à Las Vegas pour l'Inagora, mon employeur, où on présentait des solutions de logiciels libres, en l'occurrence Tweak, qui est une suite bureautique open source et libre, donc sous licence libre, hein, et que contre toute attente, on y allait essentiellement pour voir des Européens, on va pas se mentir, hein. On a vu énormément d'Américains qui venaient nous voir et qui disaient « Putain, mais votre truc, c'est génial, parce qu'on n'en peut plus de Microsoft ». Alors, c'est pas pour les mêmes raisons que nous, mais les raisons, c'est qu'il y a le vendor locking, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dedans, on peut plus en sortir, les tarifs, on est obligé de les subir, on n'est pas libre. Et donc, en fait, même un citoyen ou une citoyenne américain, ils subissent les GAFAM. Et c'est pour ça que je disais, évidemment, c'est nous ce qu'on veut, la solution, c'est pas des GAFAM européens. C'est du logiciel libre.
Tu fais bien de le rappeler, et ça va dans le sens peut-être d'une consultation qui a été ouverte par la Commission européenne. Alors je vais citer cette consultation publique, donc vers des écosystèmes numériques ouverts européens, une consultation qui est ouverte jusqu'au 3 février, qui pose différentes questions sur les thématiques de souveraineté ou de dépendance, sur les enjeux de passage à l'échelle, c'est-à-dire qu'effectivement comment faire en sorte que les solutions utilisées le soient suffisamment massivement, on va dire, pour être soutenu, pour qu'il y a un écosystème autour, pour reprendre le terme, l'usage dans les administrations publiques, les questions de la durabilité, de la sécurité, donc des aspects importants. Des consultations intéressantes. Alors, je modère le propos, c'est très bien ce que fait la Commission européenne avec cette consultation, mais c'est dommage qu'il y ait des reculs par ailleurs sur d'autres textes, mais la Commission européenne, comme les grandes administrations, peuvent faire des choses différentes avec leurs deux mains. Est-ce que cette consultation est intéressante, importante pour vous? Est-ce qu'il y a des sujets en particulier que vous trouvez importants d'adresser? Qui veut se lancer?
Alors j'ai vu en vitesse le papier d'appel, enfin à réponse en fait. C'est très ouvert. On peut,
oui, c'est très large.
Donc on peut dire ce qu'on a à dire sur tous les domaines. Il y a trois questions au début qui permettent de montrer un petit peu les grandes lignes des préoccupations de la consultation. Hein. On a jusqu'au 3 février pour répondre, je crois, ou 6.
3 février, oui.
Ouais, 3 février, donc il faut pas trop traîner si on veut répondre.
Donc c'est surtout les gros écosystèmes, c'est les industriels.
C'est plutôt orienté professionnel du libre. Après, ou de l'informatique.
Mais les réponses sont ouvertes, si vous avez des choses que vous pensez
contribuer. Si des particuliers veulent répondre, ils sont tout à fait aussi.
Et je note, il y a déjà 900, ce que j'ai regardé ce matin, il y avait déjà 931 réponses, ce qui montre aussi l'intérêt et le fait que tous ces écosystèmes se sont mobilisés pour faire porter leur voix, et donc ça appuie aussi, ça envoie un message à la Commission européenne pour dire oui, ce sujet nous intéresse et on est là, on existe
ça fait partie des sujets sensibles autour de la souveraineté, effectivement, je comprends à la fois que ça motive à contribuer, à répondre, et puis ça, c'est aussi un moment où on sait que vu le contexte géopolitique, la Commission sera plus attentive à ce qu'on propose pour avancer dans le bon sens.
Benjamin.
Ouais, moi ça me rassure beaucoup en fait, ça, parce que il y a un an, tous les financements vers le logiciel libre, ils étaient reroutés vers l'intelligence artificielle. Alors j'ai rien contre l'intelligence artificielle, pas si j'ai plein de choses contre l'intelligence artificielle, mais
un peu quand même.
Je peux comprendre que on veuille pas passer à côté du train, mais le débat est pas là. Là, ce que je vois, c'est que ça s'appuie sur NGI, Next Generation Internet, qui est un programme de financement européen pour le logiciel libre qui fonctionne très bien, et j'en sais quelque chose puisque au titre de Castopod on en a bénéficié, et donc j'ai l'impression que c'est un petit peu un un retour en arrière sur une décision qui avait été prise, ouais, il y a un an à peu près, de délaisser le logiciel libre au profit de l'IA, parce que tout le monde s'est dit « Ah putain, c'est l'IA, il faut faire de l'IA, etc. » Donc moi, je vais pas y répondre à titre personnel parce que je suis pas clairement pas dans la cible, mais ça me rassure de voir qu'il y a des initiatives comme ça et qu'on est en train de redonner l'importance au logiciel libre parce que on n'a plus le choix.
Alors je voudrais quand même ajouter que il est pour moi important de défendre les IA libres. Donc pour moi c'est pas antinomique et
alors
au maximum.
Voilà. Je vais sûrement pas te contredire là-dessus puisque
je te laisse réagir, mais voilà, on va pas trop.
Parce que c'est mon métier les IA libres. Mais non, je dis plus rien. Non,
mais on pourrait. Mais c'est vrai que la notion même de qu'est-ce qu'une IA libre, etc. C'est très vaste et on pourrait faire plusieurs sujets longs rien que sur ce sujet.
Alors puisque tu me poses la question.
Coupe son micro.
C'était pas préparé, hein, je tiens à témoigner.
Non, mais ça montre aussi, c'est intéressant de faire ressortir l'existence de ces sujets. Et je m'étais pas fait la réflexion, effectivement, par rapport à la fin du NGU, ou alors la mise en pause de ce fonds de financement, qui était il y a un an, enfin, on en a parlé, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui s'intéressent à ce sujet. Et merci de faire ce lien que je trouve tout à fait pertinent. Vas-y, Bouki.
Bah, moi, je suis allée voir les 938 propositions, alors pas toutes, hein, parce que voilà. Mais comme on peut traduire la page, je me suis amusée. Et je peux vous dire que j'ai reconnu des copains, des gens qu'on connaît, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, on a des copains qui ont participé à titre personnel ou au titre de leur entreprise. Je sais que Murena est intervenue plusieurs fois avec des noms différents. Donc je pense que voilà, ça a été pris en charge par la communauté. Je suis contente parce que en plus, ce n'est pas juste des commentaires français, anglais ou allemand, hein. Ça vient de Pologne, ça vient de plein d'autres pays. Donc je pense que tout le monde se sent concerné. Donc c'est important, même si vous, c'est juste une remarque, un paragraphe, une phrase, d'aller participer, parce que plus on sera nombreux à participer, plus ça aura de poids.
Je précise juste que Murena propose un système libre pour téléphone.
Téléphone. Voilà.
Dégooglisé,
tout à fait. Dernière intervention ?
Je crois qu'il y a les chatons qui sont en train de réfléchir à s'ils participent ou pas. Chatons, c'est le collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc si même eux y participent, c'est cool.
Très cool. Je pense que c'est un bon moment pour faire sonner la sonnette. Alors, on va revenir en France pour une actualité parlementaire. Hier, les députés ont adopté la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment un très vaste sujet. Et en gros, le cœur de cette proposition-là, c'est donc tout simplement d'interdire d'accès les réseaux sociaux aux mineurs. Une information notamment partagée par le site Projet Arcadie qui parle de l'actualité parlementaire et la décrypte. C'est un site très intéressant si vos sujets vous intéressent. Un site que je vous encourage à suivre et puis à soutenir si vraiment ça vous intéresse. Et qui évoque un débat d'une rare absurdité technique et qui considère que le texte a très peu de chances de prospérer. Alors, le projet Arcadie est aussi connu pour ne pas avoir de langue de bois, mais aussi pour avoir une bonne connaissance du jeu parlementaire, on va dire. Il y a beaucoup de sujets qui touchent à ça, notamment en ce qui concerne les données personnelles. Donc, je sais notamment qu'un de mes voisins est très sensible à ce sujet. Je pense qu'on l'est tous d'ailleurs autour de cette table. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, ce projet de loi ? Alors, ça a été adopté, mais voilà, visiblement, selon le projet Arcadie, il y a très peu de chances que ça aboutisse.
C'est encore un de ces projets Yaka Faucon pour faire plaisir à des électeurs qui n'y comprennent pas grand-chose, mais qui se disent que sur un problème compliqué, on va pouvoir trouver une solution très simple. Il y a déjà eu les antécédents du blocage du site porno aux mineurs, qui a abouti à carrément le départ des plateformes, de certaines grosses plateformes américaines, parce qu'ils estimaient le sujet techniquement ingérable, mais c'est pas grave, on continue à légiférer là-dessus. Il y a Gabriel Attal qui est un des promoteur de ce truc-là, qui vient de faire un site web avec une démonstration qui ne marche pas. Donc effectivement, donc c'est vraiment, il y a un beau site web avec une démonstration de preuve d'âge qui ne marche pas. Donc on voit que ça n'a pas été du tout pensé derrière. C'est fait pour faire du titre, pour faire de la médiatisation, et puis derrière, on s'en fout un peu, en fait. On espère que les électeurs auront oublié ça d'ici 6 mois. Il y aura un autre projet d'ici 6 mois pour... Et puis petit à petit, les taux se resserrent, parce qu'on a introduit des obligations à différents titres. Il y a des vendeurs de solutions qui expliquent que non, il n'y a pas de problème, ma solution magique marche. qu'on est un peu dans le n'importe quoi, mais c'est préoccupant parce que sur la durée quand même, même s'il y a des projets bidons qui sortent ici et là, il y a quand même une volonté de s'acheminer vers une identification généralisée de tout ce qu'on fait en ligne. Donc ça a commencé par le porno, maintenant on parle des réseaux sociaux pour les mineurs, mais ça veut dire que tous les adultes doivent montrer patte blanche, ouais. En fait, puisque avant d'avoir montré patte blanche, on peut pas vérifier votre âge par définition. Et puis ça va évidemment être étendu au fur et à mesure, puisqu'il était question d'étendre ça aussi au VPN éventuellement. Il y a des propositions qui sont retoquées, mais petit à petit, à force de cogner, ça finit par passer, quoi.
Bah, c'est cette image, on sait. Alors à l'époque, c'était par exemple pour vendre sa solution, pour vendre cette idée. Alors c'était soit pour lutter contre le terrorisme, soit lutter contre la pédocriminalité. Et là, on voit qu'il y a un vrai enjeu social et des vraies réflexions compliquées à mener sur les réseaux sociaux de manière générale, les rapports qu'ont les mineurs à l'internet de manière générale. Et voilà, c'est du solutionnisme qui finalement vient grignoter par le mauvais bout, selon nous. Moi, je te rejoins complètement dans ton analyse sur ce sujet et qui quelque part le sursimplifie alors qu'il y a une vraie complexité derrière et des vraies questions à se poser.
Et je discute avec des gens sur les réseaux sociaux. Donc il y a des gens qui n'osent pas dire qu'ils sont pour, ou alors ils sont sincèrement pas vraiment pour, mais ils sont pas vraiment contre non plus. Ils disent bon, ben ok, je suis pas vraiment pour, mais on peut quand même le faire, non? Enfin, il y a quand même des solutions techniques pour le faire en toute sécurité. Mais en fait, ça consiste déjà à accepter qu'on soit obligé de brandir de manière directe ou indirecte notre identité pour pas mal d'activités banales de la vie de tous les jours. Donc il y a déjà une acceptation implicite quand on dit est-ce que c'est faisable techniquement? Réfléchissons-y quand même. Déjà, c'est des gens qui savent pas forcément de quoi il est question et qui demandent aux experts qui sont en train de leur dire que c'est pas faisable raisonnablement de trouver quand même une solution. Donc on est vraiment dans il y a une sorte d'ambiance bizarroïde de pied dans la porte, en fait. Voilà, j'espère qu'on en sortira, mais c'est pas évident. Mais à chaque fois, on a eu le même débat sur l'accès au porno. C'est pareil, en fait. Il y a beaucoup de gens de plein de bonnes intentions, hein, je remets pas en cause, mais qui ne réalisent pas les problèmes techniques que ça pose, et il faut absolument sensibiliser là-dessus. Sur la durée, voilà.
Je ne parlerai même pas de problèmes techniques, je parlerai de conséquences. Parce que plus on va mettre en place des choses pour protéger les enfants, plus on va obliger les gens à prouver leur identité, à donner leurs données pour des choses qui sont totalement banales, comme aller sur les réseaux sociaux. C'est là où je trouve qu'il y a quand même un effet assez pervers, quoi.
Absolument, oui.
Benjamin ?
Ouais, je vais me faire l'avocat du diable. Alors déjà, sur le fond, est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, quelles que soient les conséquences que ça peut avoir? J'en sais rien, j'ai pas d'avis sur cette question-là. Il se trouve que j'en connais, il y en a qui vivent chez moi, des jeunes de moins de 15 ans, mais j'ai pas vraiment d'avis sur cette question-là. Il y a quand même un truc qui me choque là dans le débat, c'est qu'on a tendance à confondre interdit et impossible. C'est pas parce qu'une chose est interdite qu'il faut la rendre impossible. Rouler à 150 sur l'autoroute, c'est interdit, mais c'est possible techniquement. Et donc, est-ce que ça veut dire que, à partir du moment où on dit c'est interdit les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, est-ce qu'il faut que ce soit techniquement impossible? Après tout, pourquoi pas? Enfin, pourquoi? Aujourd'hui, il me semble bien que ces réseaux sociaux, ils sont interdits aux moins de 13 ans. Donc, on est juste en train de dire, on fait plus d'eux. Et c'est tout. Mais aujourd'hui, pour aller sur Facebook, il me semble bien qu'il faut avoir au moins 13 ans, il n'y a pas de contrôle d'identité. Donc on pourrait très bien dire que c'est plus 13, c'est 15, et il n'y a toujours pas de contrôle d'identité. Donc si c'est juste ça, j'ai toujours pas d'avis sur la question. Je suis pas expert, et ça me regarde pas, mais ça me choque pas. Évidemment, si on commence à dire il faut que ce soit impossible techniquement de s'inscrire sur ces réseaux sociaux si on a moins de 15 ans, là, c'est problématique, et là, évidemment, je serai avec vous, vent debout, contre ces mesures-là. Mais j'ai pas compris que il s'agissait de faire un parallèle avec ce qu'on a fait avec les sites pornographiques, mais plus que un parallèle avec ce qu'on fait déjà pour les moins de 13 ans.
Je trouve que ça met aussi le doigt sur un aspect qui est compliqué, c'est le croisement entre les notions de droit et de la possibilité technique. Théoriquement, quand une loi est passée, c'est une norme à partir du moment où on a les moyens de la mettre en œuvre. Une loi qu'on ne peut pas mettre en œuvre, c'est-à-dire appliquer aussi une sanction, trouver, etc., n'est pas vraiment une loi. Donc à partir du moment où on part aussi dans la direction d'en faire une loi, donc créer une norme, ça implique avec, bon, je pense qu'on est sur de la théorie du droit, donc ce que je dis peut être ouvert à débat, mais selon moi, à partir du moment où on inscrit ça dans la loi, ça doit venir avec la réflexion de comment on la met en œuvre. Sinon, ça ne sert à rien de passer à la loi. Donc je trouve intéressant philosophiquement de se dire, est-ce qu'il faut recommander de ne pas permettre aux enfants, aux mineurs de 15 ans, d'accéder aux réseaux sociaux? Donc ça doit être des vrais débats de société. Est-ce que ça doit passer par la loi? Mais là, voilà.
Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Il est absolument interdit de taper son voisin avec un marteau, et pourtant il n'existe aucun dispositif qui empêche de taper son voisin avec un marteau.
Mais tu permets de préciser. La question c'est pas d'empêcher de le faire, mais c'est de pouvoir sanctionner le comportement contrevenant. Et donc, alors la question c'est sur qui on met l'obligation? Donc si on dit c'est interdit, mais qu'on dit vous aux plateformes vous ne devez pas permettre, et donc on doit trouver une manière de, alors ça peut être différent, une manière de constater, et ça peut être autre chose effectivement, je réfléchis en parlant, de constater qu'une plateforme a permis à un mineur de 15 ans d'accéder à la plateforme, et donc on va taper sur la plateforme à ce moment-là, pas parce qu'elle l'a rendu ça impossible, mais parce qu'elle l'a permis. Du coup, ça crée de l'insécurité juridique pour les plateformes, avec toutes les conséquences qui peuvent dérouler ensuite.
Il y a eu une grosse subtilité donnée par la rapporteure, je sais pas comment on veut dire, bref.
Toujours la rapporteure, oui.
Ouais, lors de la commission du 13 janvier, j'avais récupéré l'extrait vidéo, et en fait, ils ne peuvent pas interdire aux plateformes de donner accès aux mineurs, mais ils peuvent dire que l'accès des mineurs est interdit. Alors, ça dépasse largement mes compétences en matière d'analyse juridique, mais ça leur permet ensuite, enfin, est illicite en fait. Voilà. Donc, ça leur permet de brandir le DSA pour dire, les plateformes ne doivent pas laisser. C'est assez tordu. Je sais pas ce que ça va donner au final, parce que les juristes n'ont pas l'air tous d'accord
là-dessus. Donc, en gros, ils enlèvent la responsabilité aux plateformes.
En gros, oui, hein, ça va être la faute du mineur. On va pouvoir taper sur le mineur s'il accède aux réseaux sociaux. Enfin, bref.
Est-ce qu'on veut que ce soit la responsabilité des plateformes? Parce que là, il faut prendre un moment de recul, d'un point de vue neutre, les plateformes, elles peuvent être nos adversaires comme les Google, etc. Mais ça peut être aussi Mastodon, etc. Et là, on ne veut pas que Mastodon soit responsable qui accède.
Ça me choque pas, et il n'y a pas nécessairement un responsable derrière chaque infraction.
Non, mais j'essaie toujours de voir qui a réussi à se protéger dans ce genre de conflit-là, pour voir s'il n'y a pas un petit peu du lobbying derrière certaines lois, quoi.
C'est possible.
Je vais ouvrir. Alors,
ce n'est pas d'exclure.
Je prends le risque sur le temps, mais ça m'évoque ça par rapport à ça fait aussi une synthèse, un lien avec ce qu'on a pu dire avant, sur le rapport au risque et ce qu'on accepte finalement. Donc là, on va accepter finalement de devoir montrer patte blanche, etc. On n'est peut-être pas là, mais c'est vers ça en tout cas que ça pousse. Et ça m'évoque toujours. Alors, j'ai vu un envoyé spécial qui parlait de contrôler, parce qu'il y a une personne qui, via une application, se signale comme étant à mobilité réduite, et donc d'accéder à la place, et utilise de manière se gare sur une place et ne paye moins parce qu'elle se déclare faussement comme à mobilité réduite. Et la conclusion, quelque part, à la fin du reportage du journaliste, c'est de dire, en fait, il suffirait de croiser, il y a la base de données qui existe avec les personnes qui bénéficient de ce droit, il suffirait de la croiser avec le registre des plaques d'immatriculation, sans poser de questions. Donc on sait bien, ce qu'a créé la CNIL, la base de données Safari avait levé énormément de boucliers. On se dit que maintenant, elle passerait quand même beaucoup plus
d'ailleurs, le fameux Gabriel Attal avait proposé il y a 2 ans de justement croiser le fichier carte vitale avec le fichier des cartes d'identité, donc qui était littéralement le projet Safari qui a provoqué des hurlements dans les années 70.
Je ne vois pas d'autres demandes d'intervention, à part pouvoir passer au sujet suivant. Et puisqu'on parle d'activité parlementaire, alors je vais profiter pour évoquer un sujet qu'on a plusieurs fois eu l'occasion d'évoquer dans Libre à vous et cadeau Café Libre, donc vous n'êtes pas obligé d'intervenir, mais vous pouvez, si vous le souhaitez. Il s'agit des logiciels libres de caisse et la possibilité pour les éditeurs, alors nous sommes éditeurs à entendre dans un sens très large, d'attester de la conformité de leur solution sans être obligé de la faire certifier. Pour plus de détails, je vous ferai un renvoi vers l'émission où on a traité notamment de ce sujet. Alors dans le cadre du projet de loi de finances 2026, le dossier avance. Alors je vais faire court, on publiera très prochainement une actu sur le site de l'April. Donc en décembre, le Sénat avait adopté un article, une disposition pour rétablir l'auto-attestation. Après l'échec de la commission mixte paritaire en charge d'élaborer un texte de compromis entre les positions du Sénat et de l'Assemblée, les députés ont repris le travail en janvier, à partir de la version du Sénat, donc un texte qui avait cette disposition de rétablissement de l'auto-attestation. Il n'y a eu aucun amendement pour supprimer cet article, donc déjà c'était une bonne chose. Et de toute façon, l'utilisation du 49.3 a eu lieu avant que l'article en question ne soit soumis au vote. Les motions de censure ayant été rejetées, le texte a donc été réputé adopté par l'Assemblée et il contient bien le rétablissement de l'auto-attestation. Et puisque cet article est présent maintenant conforme, c'est-à-dire pareil dans les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée, il ne peut plus être supprimé en tant que tel. Alors l'examen du texte va à présent se poursuivre d'abord au Sénat, puis après il sera finalement soumis à un vote final pour éventuellement être adopté. Et s'il est adopté, l'auto-attestation sera rétablie. Donc c'est aussi pour peut-être ouvrir un peu la page sur la complexité de la procédure parlementaire et en particulier sur les projets de loi de finances. Alors j'espère que pas trop vous avoir perdu. En tout cas, voilà, sur ce sujet, on semble en bonne voie. Et bien sûr, je dis ça sans porter le moindre commentaire sur la manière dont le projet de loi de finances est adopté, ni sur son contenu. Benjamin, puis Bookie, puis Benjamin.
Alors, je suis super contente que l'attestation soit remise en place.
Alors, on n'y est pas encore, mais on est en bonne voie.
Ou presque. Voilà. Mais alors, quand je vois le projet de loi finance, je pleure, quoi.
Je suis d'accord. Mais voilà, c'est on avance où on peut, de la manière qu'on peut, et c'est aussi l'ambivalence, parfois, de l'action du plaidoyer politique. Benjamin.
Sur les logiciels de caisse, ouais. Je voulais répondre parce que je vais faire exactement la même réponse qu'à la question précédente sur l'accès des plateformes des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est pas parce que c'est impossible que ça doit être impossible. C'est pas parce que c'est interdit que ça doit être impossible. Typiquement, les logiciels de caisse, le problème, c'est qu'on veut éviter que des gens puissent aller dans la base de données pour faire supprimer des transactions, gruger la TVA, etc. On veut éviter les arnaques à la TVA, principalement. Et donc, on veut que la loi rende impossible de le faire. Mais c'est interdit déjà. Et le fait, et moi j'estime que c'est pas à la loi de le rendre impossible. La loi, elle l'a interdit, ça devrait suffire. Et derrière, on va venir contrevenir à nos libertés les plus fondamentales, comme le fait de choisir un logiciel libre. Pourquoi ? Parce que, eh ben, on a voulu rendre le truc impossible parce qu'on dit non, mais ils vont quand même gruger. Il faut interdit, ça suffit pas, il faut que ce soit impossible. Eh ben, je pense que c'est très grave.
C'était d'autant plus stupide que même un logiciel certifié permettait d'arnaquer, de faire des fraudes.
Non, mais on peut toujours avoir... Alors, il suffit d'avoir deux logiciels, voilà. Hein, deux caisses. Enfin, combien de commerçants qui ont deux caisses, voire qui refont tout à la main. Enfin, quelqu'un qui veut gruger va toujours y arriver. Voilà, et on va juste enquiquiner ben, les honnêtes gens les qui éditeurs. Veulent... voilà.
En fait, c'est ça, quoi. Quelle que soit la manière que tu proposes un logiciel libre, un logiciel privateur, certifié, pas certifié, auto-attesté, pas attesté, si la personne derrière est malhonnête et qu'elle veut gruger, eh ben, elle trouvera toujours une manière de gruger. Je pense que c'est ce restaurateur-là qui avait été chopé sur le logiciel de comptabilité et qui, après, avait monté une SS2I pour pouvoir se refacturer les choses, pour pouvoir rembourser les dettes et compagnie. Donc, je veux dire, cette personne-là, le logiciel, il n'est pas en cause, quoi. C'est vraiment la personne en elle-même. Donc, c'était ridicule d'enlever l'auto-attestation il y a un an et demi. Voilà. Donc, autant qu'elle soit remise. Et...
pas sous-estimer la créativité des personnes qui veulent contrevenir et contourner.
Et imaginez que c'est par le logiciel qu'on va pouvoir les empêcher de mentir. C'est complètement illusoire.
J'aime bien l'analogie avec le stylo BIC. Je ne sais pas si vous savez, un stylo BIC, ça vous permet de remplir votre fiche d'impôt et de tricher. Et bon, on va interdire les stylos BIC. Voilà, ben, j'ai l'impression que c'est à peu près ça. Quoi. On interdit un outil qui n'y est pour rien.
Et on va terminer sur un dernier sujet proposé par Pierre, donc je vais te laisser le présenter. Olvid, un outil de messagerie chiffrée française, passe son code en libre. On est toujours content quand on entend parler de logiciels libérés.
Oui, alors bah, Olvid, c'est une application chiffrée de bout en bout, donc c'est une nécessité aujourd'hui quand on...
Il va falloir que t'expliques, je suis désolé, protéger. Mais ça veut dire quoi chiffrée de bout en bout ?
Alors ça veut dire que personne ne peut faire une écoute illégale. Ça rend impossible, comme dirait Benjamin, une écoute illégale, parce que mathématiquement, on peut le faire de manière ciblée avec des supercalculateurs, mais on peut pas écouter tout le monde tout le temps comme ça a pu se faire dans d'autres... par le passé. Donc c'est la meilleure protection qu'on puisse avoir sur la confidentialité de nos communications, qui sont un droit fondamental, peut-être pas, mais qui sont un droit légal en tout cas. Il y a le secret des correspondances qui date de l'invention de la poste. Et là, ils fournissent carrément le source de leur logiciel serveur, donc le logiciel qui fait les relations, les mises en relation entre les différents abonnés. Alors c'est intéressant parce que ça permet déjà dans un but didactique de voir comment c'est organisé. Ça permet aussi à ceux qui ont des doutes sur la sécurité en jeu de vérifier que ça a été implémenté correctement. Donc ça permet à des experts de regarder tout ça. Puis c'est un signe de transparence et d'ouverture vis-à-vis du code qui est en production là-dessus. Alors on n'a jamais la certitude que le code source fourni est celui en production, évidemment, hein, c'est quasiment, enfin c'est très compliqué à prouver, mais c'est un bon signe parce que ça favorise aussi l'utilisation de ces technologies et leur évolution future pour avoir des meilleurs services de ce type-là.
Absolument, merci d'avoir remonté cette info. Alors il nous reste 45 secondes. Bookie, tu veux réagir?
Je vais me dépêcher. J'ai cliqué sur la page GitHub et je vois Olvid AWS Server. Alors moi, quand je vois AWS Server, je pense Amazon Web Service.
Absolument.
Rassure-moi, s'il te plaît.
Eh ben non, c'est bien chez Amazon, oui, mais a priori, oui. Oui.
Bon, je ne suis pas rassuré alors.
Mais ça tourne quand même sur du Linux, donc tout n'est pas noir.
Il faut que ce soit libre, quelqu'un pourrait partir de ce code. Alors,
on peut le faire tourner a priori sur autre chose. J'ai pas été voir le détail du code, s'il est lié beaucoup ou pas à l'infrastructure AWS, mais enfin a priori ça permet à quelqu'un qui souhaiterait le faire tourner ailleurs de prendre ça comme base.
Et la démarche reste. Est-ce que tu sais sous quelle licence ça a été publié?
Ah, j'ai pas regardé ça, désolé.
Le lien vers la forge sera en ligne, donc là où est le code et la licence devrait y être indiquée sans doute, on le mettra bien sûr en référence. Bookie, Pierre, Benjamin, un grand merci d'avoir passé ce moment avec moi au Café Libre et je vous dis à une prochaine, soit pour une chronique, soit pour un prochain Café Libre. Bonne suite de journée.
Merci.
Nous venons, je vous aurais pu faire ça en Camina Burana, mais enfin bon. Nous allons à présent faire une pause musicale. Nous allons écouter Tear Apart the Walls par System Failure. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Locked up, we're fighting for a world that's less fucked up. And if you think different, and if you misbehave, they will lock you up, they will put you in a cage. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Systematic violence to all that object, getting tied with your hands to your bed. And this is what they call justice. This is what they call fair. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Apart the walls that keep us from each other. And I wish I knew you were safe, but you just never know. In the hands of the state. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let us tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other.
Nous venons d'écouter Tear Apart the Walls par System Failure, disponible sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions, c'est ça Bayessa.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. l'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu de l'April, nous allons passer à notre dernier sujet. Nous allons poursuivre avec une nouvelle pituite de Luc, le thème de la chronique du jour, informatique totalitaire.
Il y a un an, en janvier, j'avais écrit une pituite sur l'oligarchie techno-industrielle. C'est le terme qu'avait employé Biden pour pointer vous savez qui. D'autres termes sont employés, technofascisme, technoféodalisme ou encore broligarchie. En février, j'avais parlé de la façon dont Trump avait fait effacer des mots dans les données gouvernementales pour censurer des sujets tabous. J'ai à l'époque parlé du totalitarisme, de la façon dont le stalinisme faisait lui aussi disparaître des gens. C'était donc il y a 11 mois, une éternité par les temps agités qui sont les nôtres. Je pense que ça s'est senti, mais mes pituites sont assaisonnées de certaines idées que j'ai repompées à des gens sans les citer. C'est notamment le cas du livre « Le système totalitaire » d'Anna Arendt, dont je suis un lecteur attentif. Entre mes années d'étudiant et aujourd'hui, j'en suis à ma troisième lecture, et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que la réalité s'applique à reproduire le schéma qui y est décrit. J'ai toujours eu l'envie de proposer une lecture du monde à la lumière de ce livre, et j'ai toujours eu la flemme. C'est fort dommage, car si je l'avais fait dès que l'idée m'en était venue, j'aurais pu m'adonner au plaisir mesquin que j'apprécie tant d'asséner des « je vous l'avais bien dit ». Mais je ne l'ai pas fait, alors pourquoi je remets ça sur la table? Parce que pendant les fêtes, j'ai réfléchi, lu Arendt et roté des effluves de foie gras mêlés de sucre gastrique. Trump coche un paquet de cases sur la carte du bingo du totalitarisme. Il promet un paradis aux contours flous et lointains. Son comportement insultant, narcissique et colérique lui permet de pulvériser l'hypocrisie et la corruption de la bonne société. Ses adversaires, empêtrés dans leur compromission, se sont révélés incapables de s'opposer à lui. Pour les masses qu'il admire, puisque la bonne morale est hypocrite, alors ce qui est immoral devient cool. Trump au pouvoir, c'est le bouffon qui occupe le trône. À force de mensonges, de déclarations absurdes, de revirements, il impose un monde où plus rien n'a de sens. Et quand plus rien n'a de sens, alors tout devient possible. Les règles sautent, les ambitieux et les fous s'engouffrent dans la brèche. En tant que chef, Trump prouve qu'il a raison par l'action. C'est sa capacité à faire, à tenir ses promesses de faire, qui deviennent la seule vérité tangible. En pliant la réalité pour la faire rentrer dans le fantasme, il démontre sa force et sa puissance. Puisqu'il fait tout exploser, de la bonne morale à la plus simple logique en passant par les faits, c'est alors qu'il est tout puissant, et cette qualité se suffit à elle-même. Et les tech bros dans tout ça? Ils ont été accusés d'avoir pris le pouvoir au travers de Trump. On cite particulièrement Peter Thiel, David Sachs et Elon Musk. Je ne saurais dire si c'est vraiment le cas, mais Trump a surtout l'air motivé par son enrichissement personnel. Il détruit, agite son slogan, mais il lui manque le scientisme qu'avaient le nazisme et le stalinisme. L'un prétendait ne faire qu'accélérer une implacable supériorité de la race, l'autre un implacable sens de l'histoire. Je ne vois rien de ça chez Trump. Il y a en revanche un scientisme marqué chez les tech bros. Une bonne part d'entre eux se revendiquent transhumanistes. Ils ont la prétention de créer une nouvelle humanité, de changer radicalement le fonctionnement de la société. Les réseaux sociaux et la NSA ont réalisé la grande carte des relations sociales que le NKVD de Staline ne pouvait produire qu'à petite échelle, avec la limite du papier et des ficelles. Zuckerberg, il y a quelques années, imaginait que ces médias sociaux seraient les nouvelles infrastructures sociales du futur. Larry Ellison a proposé une grande base de données centralisée de tous les Américains, Palantir et semble-t-il sur le coup. D'autres font état de leurs ambitions publicitaires et annoncent l'avènement d'une économie de l'intention en remplacement de notre déjà foireuse économie de l'attention. Les exemples sont innombrables. Et pour servir ces projets, l'IA est le truc rêvé. Elle permet d'isoler les humains les uns des autres encore plus. Elle est annoncée comme leur remplaçant dans un nombre croissant de tâches, prophétisée à se développer au point de pouvoir bientôt les dépasser en toute chose. Le rêve humide des tech bros, c'est une humanité de robots. Et l'IA semble leur offrir presque ça, un peuple de robots humanisés. Mais même si l'IA ne tient pas cette promesse, les humains convergeront avec cet idéal à coup de chatbots, de partenaires intimes artificiels. Or, c'est très exactement ce que Arendt décrit comme l'idéal totalitaire. La création d'un homme nouveau sur lequel le chef a un pouvoir total. En supposant que je ne sois pas juste paranoïaque, l'informatique est un champ de bataille d'un enjeu vital. Et je ne vois qu'un seul contre-modèle à l'informatique totalitaire.
C'était la pituite de Luc sur le thème de l'informatique totalitaire, une chronique que j'ai personnellement trouvée très inspirée, et je remercie notamment Luc d'avoir proposé un regard qui voit plus loin que la folie ou l'idiotie de Trump pour la placer dans un véritable projet politique, le totalitarisme. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces.
Alors, je vais devoir parler très vite, je vous prie de m'en excuser. Soirée de contribution libre, jeudi 12 février à la FPH, Fondation pour le Progrès Humain, à Paris, dans le 11e arrondissement. Premier samedi du libre, samedi 7 février, de 14h à 18h, au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie, à Paris. Un endroit pour se faire aider à installer et paramétrer des logiciels libres ou des distributions GNU Linux. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernard Dimet. Prochaine soirée, le vendredi 6 février. La campagne de Windows, on en a parlé plus tôt, poursuit son cours. Faites-vous aider, vous et vos proches, à migrer vers un système libre. Par exemple, dans le cadre d'une install party organisée à Alençon le 7 février au centre social Edith Bonen, à Quimper tous les samedis, une permanence de 16h à 18h au centre des Abeilles, ou encore à Dunkerque le vendredi 20 février, à la maison des quartiers des Glacis dans le cadre des rencontres des libertés numérique. Je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour trouver toutes sortes d'événements Adieu Windows et bien d'autres en lien avec le logiciel libre et la culture libre, ainsi que les associations qui les font vivre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Benjamin Bellamy, Bouquinette, Pierre Bessac, l'incroyable Luc. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Sébastien Chopin, Elodie Daniel Girondon, Languin, Nicolas Graner, excusez-moi, Julien Haussmann, tous et toutes bénévoles à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibaud, Théocrite, Tunui, bénévole à l'April, ainsi que Frédéric Couchet. Merci également à Marie-Odile Morandi et le groupe Transcription qui permet d'avoir une version texte de nos émissions. Si vous préférez, alors vous retrouverez pardon sur notre site web libreavoue.org/267 toutes les références utiles de l'émission de ce jour. Et si j'en ai oublié, n'hésitez pas à nous écrire pour me demander de les rajouter. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 3 février à 15h30. Notre sujet principal sera un nouveau parcours libriste avec une invitée spéciale, ma formidable collègue Isabelle Avani, coordinatrice vie associative et responsable projet pour l'April. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi 3 février et d'ici là, portez-vous bien.
Cause commune, retour sur 93.1 à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fm.
Nous aurons évidemment la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration qui va structurer nos travaux de rentrée. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée.
Causecommune.fm. Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole.